Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
OK, la chronique en droit du travail maintenant. Un autre gros dossier cette semaine avec Maître Philippe Coderre. Salut Philippe.
Salut LP.
On revient aujourd'hui sur le cas de Nathalie Bondil, l'ancienne directrice générale du Musée des Beaux-Arts, congédiée l'été dernier, qui a poursuivi son ex-employeur pour 2 millions de dollars. La défense du musée a été rendue publique cette semaine. D'ailleurs, avant d'aller sur les faits de la cause, là, peux-tu nous expliquer à quoi sert une défense écrite et est-ce que c'est légal de rendre ça public?
Oui, ben en fait, la défense écrite, là, ça s'inscrit dans un recours civil. Donc, quand on est, par exemple, devant la commission des normes du travail, là, dans un dossier de normes du travail, devant le tribunal administratif du travail, ça n'existe pas des défenses écrites. Moi, j'ai deux procès dans les deux prochaines semaines. Là, j'ai aucune idée c'est quoi la défense de l'autre partie. On n'a pas ces documents-là à s'échanger. Mais en matière civile, par contre, ça fait partie des règles de procédure. Ça vise à annoncer nos couleurs. Des fois, ça peut être fait oralement. Des fois, c'est fait par écrit. Donc, oui, c'est public. Un journaliste là, peut aller là, au palais de justice de Gatineau cet après-midi, regarder tous les dossiers, puis voir s'il y a des défenses intéressantes puis croustillantes. C'est quelque chose qui est possible. Donc, il n'y a pas d'illégalité là-dessus. Puis, ça vise surtout à annoncer à l'autre partie, voici ce que je vais dire dans ma défense pour pas qu'il y ait de surprise lors du procès. Ça fait d'ailleurs partie des stratégies. Quand on négocie des dossiers médiatisés, des fois, on se dit, on va essayer de le négocier
avant que ça sorte.
Défense... Ben oui, parce que la défense écrite, c'est un écrit. Donc, le journaliste qui a accès à ça, ben, il a juste à réciter des paragraphes, hein, puis voilà, il a son histoire.
Bon, au niveau des faits, justement, là, résume-nous ça. Qu'est-ce que le musée reproche à Mme Bondil?
Ben avant, on va peut-être retourner un peu en arrière, là, parce que justement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi ça cet été. Mme Bondil, là, c'est quelqu'un de renommée internationale qui était directrice du Musée des Beaux-Arts. Elle a été congédiée l'an passé en raison du climat de travail toxique qu'elle créait. Donc, on a vu ça récemment là, ici dans notre cours là, avec la gouverneure générale. Donc, une situation similaire. Et Mme Bondil, elle disait essentiellement que c'est un prétexte, le climat de travail, la raison pour laquelle elle a été congédiée. La véritable raison, c'est qu'il y a eu une ingérence du CA dans ses opérations day-to-day, puis qu'on lui a pas permis, s'il y avait véritablement un climat de travail toxique, de pallier à la situation. Et là, dans la défense, ce qu'on apprend, c'est que le climat de travail toxique, elle en était la cause, selon le musée. C'est quelqu'un qui prenait là, avait des partis pris dans l'entreprise. Des fois, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont vécu ça avec certains patrons. Là. Donc, des gens qui ont certains avantages par rapport à d'autres.
Des chouchous.
Et des chouchous, exactement. Ouais. Elle aurait trafiqué des grilles d'entrevue dans certains processus mis en place par le musée. Et elle est l'artisan de son propre malheur parce que c'est elle qui a tout rendu ça public selon le musée. Et finalement, on dit, en plus, on lui avait offert de poursuivre son contrat là, jusqu'en juin 2021. C'est elle qui a décidé d'aller sur la place publique. Alors, on voit là, que les parties des deux bords ont mis leur gant de boxe là, et ça s'échange des coups d'un coup de part et d'autre là, dans les documents qu'on voit à la cour présentement.
Je sors de cette cause-là un peu, Philippe. Là, il me semble qu'il y a beaucoup de débats entourant le rôle des administrateurs et des DG là, dans différents organismes à but non lucratif. Ici, dans la région notamment, ça fait la manchette assez souvent. Est-ce que c'est un secteur qui est plus propice à ce genre de conflit?
Oui, moi je vous dirais, là, puis j'ai été des deux côtés là, de la clôture dans ces dossiers-là, autant pour un cadre supérieur ou des cadres supérieurs et ou l'organisme. Là. Ça arrive beaucoup parce que c'est des milieux dans lesquels il y a des conseils d'administration. Puis des conseils d'administration, ça se change souvent aux 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors que la direction générale, elle est fixe, elle est immuable. Des fois, les gens sont là pendant 20, 25 ans. Et souvent, ce qui arrive, c'est que à un moment donné, il y a un nouveau conseil qui décide de peut-être scruter à la loupe un peu ce que le DG fait ou l'ADG fait et qui réalise que ouais, là, il y a peut-être des choses qu'il faudrait changer ou des choses qu'on n'aime pas. Et là, ça crée des conflits parce que souvent, le DG qui fait sa job depuis 20 ans dit « Écoute, là, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis persuadé que j'agis de la bonne façon. » Et là, ça peut créer là, justement là, de la chicane entre les deux. Puis des fois, il y a des gens, des présidents de CA, par exemple, qui décident de prendre plus de place, qui décident de se mêler un peu des affaires day-to-day là, du DG. Alors oui, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Puis en plus, pourquoi on en entend parler? Bien, c'est que souvent, ces organismes-là, le porte-parole, ça va être le ou la DG. Ce sont des gens qui sont souvent appelés en entrevue au 147, à TVA, etc. Oui. Donc, quand ils se font congédier, c'est certain que ça fait les manchettes parce que c'est des figures publiques que tout le monde reconnaît. Alors, c'est quelque chose qui est très propice à ça, effectivement, là, ce type de milieu-là, un peu comme les villes, là, notamment, là aussi.
Un climat de travail toxique, Philippe, est-ce que c'est suffisant comme motif pour congédier un DG ou une DG après 23 ans d'ancienneté?
Oui, dans ce cas-là, je pense que c'était 13 ans, là, dans le sens que 2007, là, ouais, 13 ans, mais 23 ou 13 ans, ça ne change rien, dans le sens où oui, un climat de travail toxique peut justifier un congédiement. Ça, c'est certain. Cela étant, par contre, il faut quand même déterminer c'est qui est la cause de ce climat de travail toxique-là. Donc, ça va faire partie de la preuve. Si, par exemple, Mme Bondil n'est pas celle qui était l'instigatrice du climat de travail toxique, puis qu'elle s'en rendait pas compte, puis que personne déposait de plainte à l'interne en harcèlement, par exemple, ben, elle pourrait dire qu'elle n'a pas eu la chance de remédier à la situation. Alors, c'est important dans un contexte de climat de travail toxique qu'il y ait une gradation des sanctions qui soit faite pour pas, justement, comme je disais tantôt, que le nouveau CA arrive et qu'il dise « je l'aime pas, Mme Bondil, puis on va essayer de trouver des bébites puis pour s'en débarrasser.
Oui. »
Donc, c'est important de faire une gradation de sanctions, même s'il y a un climat de travail toxique, parce que ça a un dossier vierge, là, il y a un problème. Évidemment, on l'a vu avec la gouverneure générale, là, ça se fait perdre son emploi à cause de ça, parce que naturellement, le leader d'une organisation, c'est lui qui a la charge là, de fournir un milieu de travail exempt d'harcèlement.
Oui. Mais tu sais, s'il y a un nouveau CA qui, sans dire qu'il n'aime pas la personne en place, là, le DG ou la DG, mais qui veut passer à autre chose, qui pense qu'un changement serait bénéfique pour l'organisation, ça peut se faire? Comment on doit procéder, Philippe?
Ben là, il faut mettre en place des stratégies. C'est là que je pense que c'est toujours pertinent de demander conseils, là, des conseils juridiques. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut prendre. La première, c'est juste d'avoir une rencontre honnête. Donc, on peut faire ça, s'asseoir avec le DG, dire « Écoute, ça fonctionne pas, t'aimes pas où on s'en va, on n'aime pas comment ça fonctionne, c'est quoi ton prix pour que tu quittes? » Le risque, si on fait ça, c'est qu'on annonce nos couleurs. Parce que là, si jamais il dit « Non, non, moi, je suis bien, je veux rester », puis que là, tu décides de monter un dossier disciplinaire par la suite, ben ça, c'est sûr que cette conversation-là va faire partie de la preuve. Donc ouais. ça dépend de la situation. On peut aussi l'aviser à l'avance, hein, puis dire « dans un an, tu vas perdre ton emploi ». Donc pourquoi qu'on ferait ça? C'est pour donner un préavis raisonnable d'un an à la personne en disant « je t'avise, là, tu vas quitter ton emploi dans un an ». Le risque, si tu fais ça, ben c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'entreprise pendant cette année-là? Quelqu'un qui sait qu'il sera pas là. Donc c'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est vraiment de monter un dossier. Donc, on rencontre la personne, on lui dit « voici où on s'en va ». Est-ce que tu embarques ou tu n'embarques pas? Puis si tu embarques, ben voici nos objectifs, voici ce qu'on veut atteindre. Et là, par la suite, c'est sûr que si son rendement n'est pas adéquat, bon, au moins, ça va être un dossier quand même bien fait.
Oui.
La pire chose à faire ici, ce serait de monter le dossier disciplinaire, mais à la va-vite. Donc, c'est-à-dire sauter sur le premier incident pour congédier la personne, pour pas avoir à faire une gradation des sanctions qui est longue dans le temps. Et je sais pas si c'est ça qui est arrivé au musée, mais évidemment, ça, c'est pas une bonne stratégie.
Tourner les coins ronds en droit du travail n'est jamais une bonne idée.
Ah, exactement, parce que là, on s'expose. Il faut quand même faire la preuve qu'il y a un motif sérieux de congédiement. Puis si tu as décidé de bypasser certaines étapes, puis de pas laisser la chance au coureur de corriger ses lacunes, par exemple, bien là, c'est sûr que votre preuve là, de motif sérieux de congédiement va être plus difficile à faire.
Dans ce cas-ci, le Musée des beaux-arts, dans sa défense, là, indique avoir offert à Mme Bondil de terminer son contrat, justement, en juin 2021. Est-ce qu'une offre comme ça peut avoir un impact sur le montant qu'elle pourrait réclamer ou recevoir en bout de ligne?
Oui, ben ça dépend vraiment de comment ça a été fait, cette offre-là, là, parce que c'est évident que c'est quelque chose que le musée pourrait utiliser. C'est pour ça que le musée, en fait, comme j'ai dit tantôt, lui a dit regarde, on va mettre fin à ton emploi prend fin dans un an, et qu'elle décide de quitter. À ce moment-là, elle renonce à son délai congé. Donc, si elle décide de faire une poursuite, par exemple, pour obtenir 2 ans de salaire, ben cette première année-là va être déduite complètement. Donc, ça peut être une stratégie, encore une fois, qui est intéressante. Encore faut-il que ce soit clairement un délai congé qu'on donne et pas juste une négociation avec elle. Donc, c'est ça qu'on ne sait pas là, dans la trame factuelle qui a été présentée. Puis l'autre argument qui peut être fait, c'est en vertu du principe de la mitigation des dommages. C'est-à-dire, si vous êtes congédié demain matin et que vous avez une opportunité d'emploi pour votre même employeur ou un autre employeur et que vous la refusez, ben un juge pourrait tenir compte de ça en disant « vous n'avez pas fait tous les efforts pour minimiser les dommages ». Évidemment, quand le climat de travail est tendu avec l'employeur actuel, si on refuse l'emploi souvent les juges vont comprendre pourquoi qu'on l'a refusé.
Ouais, ouais.
Ça fait partie des arguments qui peuvent être soulevés, effectivement.
Mais là, Philippe, terminant, là, moi, je me mets dans la peau, là, mettons, du DG, dans ce cas-ci, de l'ADG. Là. C'est parce que si le climat était si toxique, il me semble que tu n'offres pas à la personne de continuer pour une autre année, mettons. Là. Ça pourrait faire partie de ces arguments, là. Si c'était si pire que ça, on ne m'aurait jamais offert de rester une autre année.
C'est certain qu'elle va utiliser ça dans son argumentaire. Ici, le syndicat semble être content de son départ. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à l'interne. On ne sait pas si c'est elle qui est responsable de ce climat-là ou si c'est des gens en dessous d'elle qu'elle protégeait. Mais effectivement, si on disait au musée, si on disait comme argument, écoutez, vous jugez que c'est urgent que je parte parce que je fais du harcèlement puis vous m'offrez de rester jusqu'en juin, effectivement... c'est
un
pas
peu
trop
particulier.
Ouais. Effectivement.
Ouais. Intéressant. Ben, on va suivre ça. On va sûrement s'en reparler dans une prochaine chronique. Merci beaucoup, Philippe.
Merci, LP.